deux pas de chez toi.
Voir qu'on redonne des sourires, ça fait toujours plaisir.
Votre magazine de reportages, de témoignages, à la découverte de Reims, ses habitants, ses habitantes et de ses alentours.
Faire ce qu'on veut, quand on veut.
On rencontre des personnes différentes, très différentes les unes des autres. Et c'est génial aussi.
À deux pas de chez toi.
Pour qu'ensemble nous puissions créer un nouveau monde dans lequel les femmes sont plus solidaires, plus unies, pour créer un monde où règne l'amour, la solidarité, l'entraide.
Prenez le temps d'explorer ce qui se fait sur notre territoire avec Radio Primitive. Bonjour et bienvenue dans À deux pas de chez toi. Au programme de notre émission cette semaine, on vous parle d'une exposition sur la ville de Reims, redessinée au 19e siècle pour assurer le bonheur public. Mais avant cela, on vous présente une nouvelle association. Le réseau Enfance et Handicap, une nouvelle association sur notre territoire. Et on est très heureux de vous ouvrir nos micros pour que vous vous présentiez à nos auditeurices. Bilal, je te laisse la main et puis oui. On va les découvrir tous et toutes ensemble.
Du coup, on est avec Khadija et Ilham. Bonjour mesdames.
Bonjour.
Et vous êtes là pour nous présenter votre association qui s'appelle Réseau Enfance et Handicap.
C'est
comme
ça,
on vient de le dire, c'est une asso qui a été créée assez récemment. Est-ce que vous pouvez nous en parler peut-être un petit peu plus? Pourquoi? Quelles sont les missions de l'association et pourquoi vous l'avez créée?
En fait, c'est une association qui a été créée le 3 avril 2026. Elle a pour but en fait d'aider les parents et également d'accompagner les enfants qui sont en situation de handicap. Le but étant d'avoir du temps de répit pour le parent, parce que c'est une charge qui est vraiment
présente.
Et également de mettre en place des activités pour les enfants, que ça soit au niveau de la motricité, donc avec une psychomotricienne, avec une sophrologue,
ergothérapeute,
beaucoup d'activités autour de la motricité. Également avoir un temps de répit aussi pour le parent, parce que le parent forcément lorsqu'il a un enfant en situation de handicap, en fait, il n'a pas forcément le temps de prendre du temps pour soi. Donc, on aimerait bien mettre en place aussi des activités pour le parent en parallèle de l'enfant. Donc, ça serait vraiment le but, ça serait vraiment de mettre en place une activité pour l'enfant et juste à côté, le parent qui reste à proximité dans une salle à côté pour pouvoir faire en fait son activité, par exemple une activité de bien-être.
Comme ça, on s'inquiète pas parce que l'enfant il est dans la pièce à
voilà,
côté.
Voilà, c'est ça, tout à fait.
Non, mais c'est
voilà.
Vrai que c'est pas
oui,
évident
c'est
de lâcher prise
c'est
aussi.
Ça.
Hein.
Comme ça, voilà, le parent il est juste à côté de l'enfant. S'il a besoin justement d'intervenir ou même d'avoir un petit câlin, parce que des fois l'enfant a besoin du petit câlin du parent. Mm-hmm. Donc voilà, donc le parent est juste à côté, il peut venir faire le petit câlin et repartir sur son activité.
Voilà. Ça peut être aussi, par exemple, si c'est une activité un peu plus créative, le parent peut être là avec l'enfant aussi s'il souhaite, pour participer justement et que ça lui fasse une petite activité avec son enfant.
Donc c'est vraiment le but de répondre aux besoins, c'est assez inclusif, des parents et des enfants sur un côté très des activités, mais aussi administratif. J'ai pu comprendre que vous aidiez à accompagner justement les familles qui sont peut-être dans une situation un peu compliquée, qui ne savent pas forcément où s'inscrire dans des écoles ou quoi que ce soit. Vous les aidez aussi sur ce
Alors c'est plutôt au niveau des dossiers administratifs, au niveau de la MDPH, parce que les dossiers sont très très lourds à faire, très compliqués à faire. Après nous, on a des contacts, donc on pourrait éventuellement aussi donc les aider et les orienter. Donc ils pourront avoir une personne qui puisse les accompagner dans leur démarche administrative.
On ne se rend pas compte de la charge quand on n'a pas à vivre avec ce soit un enfant ou une personne en situation de handicap. Il y a le quotidien, mais il n'y a pas que ça. Alors, il y a vers où on peut obtenir de l'aide. Mm-hmm. Et il y a un langage alors administratif.
Oui, souvent, en fait, les professionnels au niveau médical ou paramédical utilisent beaucoup de sigles, de mots un peu compliqué et surtout déjà quand on a le diagnostic par exemple pour notre enfant, comme on s'était dit, c'est un peu une claque qu'on prend et de se retrouver là-dedans, on est un peu perdu parce qu'on l'a vécu personnellement, on se sent un peu perdu et on aurait aimé du coup aussi avoir une association vers laquelle on pouvait se tourner pour justement essayer de comprendre ce qui se passe, d'être aidé, d'être soutenu, d'être écouté, parce qu'il y a beaucoup de familles du coup qui s'isolent dès qu'ils rentrent dans le monde du handicap, parce que souvent les gens ne comprennent pas trop, que même si c'est un entourage ou des proches, souvent c'est très compliqué. Si c'est par exemple un enfant qui a besoin de beaucoup se dépenser, des fois les proches peuvent ne pas être très compréhensifs. Et c'est vrai que de se dire qu'on pourra parler à des parents qui ont vécu la même expérience que nous, c'est vraiment ce qu'on souhaite. On souhaite que les parents, on fera donc notamment ce qu'on appelle des cafés parents, où on peut du coup boire son café, écouter les autres parents, écouter leur situation, leurs évolutions, positives ou négatives. Et c'est vrai que ça fait du bien d'être écouté, de se sentir écouté et de parler.
Du coup, ils vont avoir cette sensation de ne pas être seul, en fait.
C'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais le handicap, c'est déjà la personne qui le subit, mais aussi l'entourage, la famille. Mmh. Et donc, avoir ce petit côté là où on se retrouve pour partager des expériences, ça peut permettre aux gens de moins se sentir seul, de sentir comprendre et de trouver un petit peu une famille en plus qui peut nous aider.
Oui, du réconfort et du positif. Hein.
On sait que du coup la personne qui est là, elle va pas nous juger parce qu'elle vit l'expérience. Donc elle pourra que comprendre la personne qui est en train de discuter avec elle et d'évoquer, pas forcément trouver des solutions. C'est pas le but premier, je pense, déjà d'un parent quand il s'exprime. C'est vraiment de se sentir écouté et de pas se sentir seul.
Et ben en tout cas, c'est des super projets que vous nous proposez. Moi, ce que j'aimerais vous demander aussi, c'est donc du coup une nouvelle association qui a été créée il y a très peu de temps. Est-ce que actuellement vous avez des besoins pour développer un petit peu l'association ?
Alors notre besoin, on va dire premier, c'est d'avoir un local, parce que c'est vrai que comme on voudrait commencer ces activités-là le plus rapidement possible, il nous faudrait du coup une structure pour pouvoir commencer ces activités. Et donc on fait appel à la générosité des gens.
Vous cherchez peut-être aussi des partenariats ? Est-ce que vous avez déjà des contacts ?
C'est ça. Alors pour l'instant, en fait, il y a la maison de quartier de Huisson ainsi que la maison associative du coup qui nous prête les locaux. Mais au niveau des activités, c'est vrai que c'est un peu soft dans le sens où on a besoin réellement d'un local.
Aéroport à l'intérieur de moi. Je veux avoir du respect vis-à-vis des avions. C'est pour ça que je ne veux pas qu'ils pensent que je me moque d'eux. Je veux prendre soin de vous, les avions. Vous faire sortir de moi pour prendre soin de vous. Vous manipuler doucement. Ne pas claquer la porte trop fort. J'ai peur de vous avaler. Vous êtes le symbole du voyage. Je ris pour autre chose. Je ris pour autre chose. Je me moque pas de vous, je ris pour autre chose. Je ris pour autre chose, je ris pour autre chose. Je me moque pas de vous, je ris pour autre chose. Ce qui me fait rire, c'est quand je dis à Olivier, c'est vrai que mon père va te vendre notre appartement, et qu'il me répond. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je ne suis pas content que tu aies fait des trous dans le mur. Ce qui me fait rire, c'est quand je dis à Thomas qu'on passera toute notre vie dans la rue et qu'on dormira sur sa veste et qu'on mangera les feuilles des arbres pour le petit déjeuner par terre dans la rue. Ce sera mieux que de manger le petit déjeuner à l'hôtel. Je ris pour autre chose. Je ris pour autre chose. Je me moque pas de vous. Je ris pour autre chose. Je ris pour autre chose, je ris pour autre chose. Je me moque pas de vous, je ris pour autre chose. Comme je tiens à vous et que je vous aime beaucoup, je ris pour autre chose. Je ris pour autre chose. Jamais je me moquerai de vous, je ris pour autre chose. Je tiens à vous, je vous aime beaucoup. J'appelle mon père Ryan et que je lui dis qu'on est tous les deux des enfants et qu'on s'amuse pendant que les parents ne sont pas là. Ce qui me fait rire, c'est Arthur qui imite la mère américaine qui rentre à la maison.
Honey, I'm home and I have beef jerky for you. ça me fait rire de faire dire des conneries aux gens. Connaissez-vous le patami des enfants? La personne répète machinalement parce qu'elle ne comprend pas. Ça me met dans un état d'excitation. Connaissez-vous le pote informatique, la confiance? Connaissez-vous la hall? Connaissez-vous la boulgourine? Pensez-vous que ma cousine en Angleterre a beaucoup de caractère? Je ris pour autre chose, je ris pour autre chose. Ne moque pas de vous, je ris pour autre chose. Je ris pour autre chose, je ris pour autre chose.
Moi, je voulais revenir sur la création de cette association parce que je me suis dit, vous avez évoqué que des fois, on se sent perdu en tant que parent. Il existe des solutions sur notre territoire. Donc, je me suis demandé, la justification de la création de cette association, c'est parce que ça va jamais assez loin. Au final, les politiques publiques, qu'est-ce que vous en pensez? Donnez-nous votre avis peut-être là-dessus. Vous, si vous créez une association, c'est qu'il manque des choses encore.
Alors oui, c'est comme l'a évoqué Ilrem tout à l'heure, c'est que lorsque nous, on l'a vécu, donc personnellement, lorsqu'on a eu le diagnostic de nos enfants, on n'a pas trouvé justement ces structures-là, en fait. On n'a pas trouvé je pense qu'il y a plusieurs associations, hein, on ne dit pas qu'il n'y en a pas, hein, mais c'est pas forcément ce qu'on attend et ce que nous, on propose.
Il y a des structures qui sont là pour les aidants, et c'est souvent pour les aidants au niveau des personnes âgées. Et nous, en fait, on voulait vraiment que ce soit centré donc sur les parents et les enfants, et que ce soit vraiment quelque chose de proximité, que ce soit accessible. Et aussi, on souhaitait vraiment axer sur les activités. Nous, on veut vraiment pouvoir aider le parent au quotidien, qu'ils se sentent soutenus et écoutés.
Avoir un côté proche et humain se perdre quand on se concentre que sur l'administratif, finalement.
C'est ça.
Et je me posais aussi des questions sur l'argent, parce que c'est quelque chose dont on parle assez peu, au final. C'est un sujet qui est quand même lié à tout dans nos vies, et aussi au handicap. Alors, on parlait des dossiers avec la MDPH. Est-ce que l'argent, c'est aussi une variable qui vient perturber tout quand on apprend que notre enfant, il a un handicap, en fait?
Oui, tout à fait.
Oui, oui, ah. Parce que souvent, nous, c'est notre cas, on a dû arrêter du coup de travailler pour s'occuper de nos enfants. Donc, qui dit arrêt de travail, dit... plus de finances personnelles, donc on doit faire appel du coup à la MDPH. Ce sont des dossiers qui sont très très longs, et c'est pour avoir une réponse, c'est très très long aussi. Donc parfois les parents se retrouvent sans ressources. Au niveau du handicap, toutes les structures qui sont prises en charge, il y a beaucoup d'attentes. Par exemple, si on veut aller dans une structure d'hôpital en psychomotricité ou ergothérapeute, il y a des délais d'attente immenses. Donc, on doit faire appel au libéral. Et libéral, ça coûte de l'argent. Donc, il y a parfois des personnes qui ont des mutuelles qui peuvent un petit peu rembourser. Mais c'est pas grand-chose. Et donc, ça reste un coût. Un coût en plus, en fait, par rapport au quotidien.
Et ça aussi, j'imagine que dans vos réunions, vos cafés de parents, ça peut être des thématiques abordées.
Ah oui, tout à fait, oui. On aimerait bien que justement on se regroupe pour échanger par rapport à ça, et qu'on puisse éventuellement remonter un peu l'information un peu plus haut, et qu'on puisse changer beaucoup de choses au niveau de tout ce qui est dossier administratif. On aimerait bien que ça change, oui, que les délais soient plus courts, qu'il y a plus de facilité. Enfin, voilà, il y a des choses qui est à changer, oui.
Que ce soit plus fluide, en fait, pour les parents. Qui n'est pas, par exemple, un entre-deux. Souvent, donc, on a, après la MDPH, une notification qui dure un certain temps, même pour les prestations. Et donc, au bout d'un moment, il faut refaire le dossier. Et même si on le fait, on va dire, 4-5 mois avant la fin, on n'a pas la nouvelle prestation juste après. Il y a un délai qui est des fois énorme, plusieurs mois. Donc là, il faut vraiment, on se retrouve à être stressé, à se dire comment je vais faire. Là, j'ai plus de revenus, j'attends. Il y a des personnes qui pourront un petit peu travailler avec leurs enfants en situation de handicap, mais il y a certains handicaps, on ne peut pas du tout travailler. Donc ça dépend vraiment de l'enfant, et c'est vraiment une contrainte. L'administratif, c'est très très lourd, et on aimerait bien que ça soit plus court, plus fluide, et que ça change.
On peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, il me semble Facebook, Insta et aussi Hello Asso. Est-ce que vous nous parlez un petit peu de ce qu'on peut faire sur Hello Asso ?
Alors sur Hello Asso, on peut adhérer. L'adhésion chez nous est gratuite. On a tenu à ce que ça soit gratuit pour tous. On peut aussi faire des dons pour les autres réseaux. Donc on a Facebook, Instagram, TikTok. Voilà, il y a toutes nos coordonnées en fait sur les réseaux, par téléphone, WhatsApp, par mail également.
Le nom des réseaux, c'est réseau Enfance et Handicap.
Enfance et Handicap.
On a mentionné les réseaux sociaux pour vous contacter, mais il y a des gens peut-être qui voudront vous venir en physique aussi, parce que des fois on est plus rassuré de rencontrer les gens, et puis parfois on veut aussi venir avec son enfant pour peut-être rencontrer les personnes. Vous avez mentionné la maison de quartier Wilson qui est accessible évidemment. Est-ce que vous tenez des petites permanences pour qu'on puisse venir à votre rencontre directement ?
Alors justement, on a mis nos coordonnées en fait sur les réseaux sociaux. Donc il y a notre adresse mail, il y a notre numéro de téléphone, donc ils peuvent nous contacter. Et puis nous, on peut leur programmer du coup à ce moment-là un rendez-vous pour qu'on puisse les rencontrer à la maison de quartier ou à la maison associative.
Parce que bientôt, on va avoir du coup une permanence normalement à la maison de la vie associative. On en parlera plus en détail après, parce que pour l'instant, ce n'est pas encore confirmé. Mais on aura une permanence pour pouvoir justement recevoir les parents qui le souhaitent en attendant d'avoir notre propre local. Mais du coup, pour les recevoir, ça sera vraiment pour les écouter, les aider, les soutenir. Donc ça ne sera pas vraiment les réunions qu'on souhaite faire plus tard. Mais on pourra les rencontrer, il n'y a pas de souci.
C'était Khadija et Ilham du réseau Enfance et Handicap, une nouvelle association créée toute récemment, qui sont d'ailleurs à la recherche de nouveaux bénévoles pour les aider à se faire connaître auprès des familles et des partenaires. Vos missions principales, ce seront donc de la distribution de flyers et tenues de stand. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur leurs réseaux sociaux, réseau Enfance Handicap ou par mail à réseauenfancehandicap@gmail.com.
Chez toi. Vous êtes toujours sur Radio Primitive. Après la présentation du réseau Enfance et Handicap à Reims, Sacha vous emmène à une visite commentée.
Bonjour à toutes et à tous les amis de Radio Primitive. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi à la bibliothèque Carnegie à Reims pour une chouette exposition historique. Le bonheur public, vivre à Reims au siècle des Lumières, du 25 avril 2026 au 1er août. Une chouette activité en plus à faire pour passer un bel été à Reims. Nous allons donc déambuler ensemble pendant une bonne vingtaine de minutes pour cette visite commentée. Et j'ai donc l'immense honneur de laisser la parole à Monsieur Nicolas Gallo, conservateur général des bibliothèques, directeur de la bibliothèque Carnegie, chargé de recherche et de mise en valeur du patrimoine écrit de la ville de Reims.
Nous présentons deux expositions par an, essentiellement à partir de nos collections pour les mettre en valeur, une au premier semestre, une au deuxième semestre. Et donc pour l'exposition du printemps 2026, nous avons retenu la thématique des évolutions urbaines qu'a connue la ville de Reims au XVIIIe siècle, donc en gros de 1715 à la Révolution française environ. Donc qui est une période de mutation importante à Reims, mais aussi dans les autres villes françaises, avec des transformations qui se voient encore aujourd'hui pour certaines d'entre elles. Donc l'exposition s'intitule « Le bonheur public, vivre à Reims au XVIIIe siècle ». Le bonheur public, ça fait référence un petit peu à l'esprit des Lumières, du mouvement des Lumières, donc qui souhaitait promouvoir le bonheur de l'individu, son épanouissement, le développement de l'éducation, de la science, l'amélioration des conditions de vie, qui sont des thématiques très fortes à cette époque-là et qui font encore écho avec la période actuelle. C'est ça aussi qui nous a intéressés. c'était de montrer que finalement les débats, les grands enjeux de la ville, les enjeux urbains de cette époque-là, sont encore des thématiques qui traversent aujourd'hui encore la vie de la cité et le débat public. Améliorer la qualité de la vie, renforcer la sécurité, la salubrité, permettre aux gens d'accéder à des espaces verts, à une meilleure qualité de vie, à une éducation renforcée, au savoir, au développement économique. Finalement, ce sont des thèmes très très actuels et c'est un peu ce qui transparaît dans l'exposition et qu'on a voulu mettre en perspective historique. Alors, le sujet de l'exposition nous a été proposé par des universitaires, rémois, Jean-Louis Hackett, notamment, qui est professeur à l'Université de Reims-Champagne-Ardennes, Françoise Gevray, qui a travaillé sur un des personnages importants de cette époque-là, Louis-Jean Lévesque de Pouilly, qui était philosophe, intellectuel, avocat, et qui a aussi été lieutenant des habitants de la ville, de 1750 à 1754, le lieutenant des habitants, c'est l'équivalent de maire aujourd'hui, hein. Et c'est notamment lui qui a mis en chantier la création de la place royale à Reims, qui a permis de restructurer une partie du centre-ville de Reims. Et puis deux universitaires québécois aussi qui travaillent en partenariat au sein d'un même centre de recherche avec l'Université de Reims nous ont également assisté dans la conception et la réalisation de cette exposition, M. Bernier et Mme Dehabre. Voilà pour citer un petit peu les promoteurs de l'exposition. Donc l'exposition aborde un peu les différentes réalisations de l'époque, donc les évolutions de la ville, ses différents aménagements, mais aussi la vie intellectuelle et la diffusion un petit peu de l'esprit des Lumières, des philosophes du XVIIIe siècle. Alors il faut peut-être revenir un peu sur la façon dont comment se présentait Reims à cette époque-là. Donc au milieu du 18e siècle, Reims compte environ 27 000 habitants. C'est à peu près la population qu'elle a au moment de la Révolution française, 27-28 000 habitants. Et la ville est encore enserrée dans ses remparts médiévaux. Donc c'est une ville close qui est donc entourée de remparts. Ces remparts ne seront démantelés qu'au milieu du 19e siècle. Hein, ils ont disparu aujourd'hui en totalité. Il reste uniquement la porte Mars, qui en fait est un monument gallo-romain, bien sûr, bien antérieur, mais qui avait été inséré dans le rempart et donc qui a de ce fait été préservé. Mais tous les autres éléments des remparts de la ville ont disparu. Il nous en reste que des gravures, des dessins voilà, et des représentations graphiques. La grande période de l'expansion urbaine de Reims, comme des villes en France en général, c'est le 19e siècle. Ça correspond à l'industrialisation de la ville, à l'arrivée du chemin de fer, au développement des transports, des échanges et de l'industrie, en particulier l'industrie textile qui a été très importante à Reims. Et à la veille de la Première Guerre mondiale, Reims compte plus de 110 000 habitants, donc la population est multipliée par 4 durant le 19e siècle, ce qui est assez remarquable et ce qui a expliqué donc le développement des faubourgs et puis donc la disparition des remparts qui était un frein justement au développement urbain. Donc la ville est enserrée dans des remparts, elle est relativement dense avec des rues étroites. Comme toutes les villes de cette époque-là, elle était relativement sale, insalubre, avec des problèmes de sécurité. Il n'y avait pas d'égout, ou en tout cas, il ne fonctionnait pas bien. Pas d'éclairage public, pas d'eau courante, des animaux qui divaguaient, un air vicié, pas très sain, un habitat pas toujours en bon état. Et donc les enjeux au 18e siècle, c'est les enjeux publics, c'est d'essayer de développer, d'améliorer la qualité de vie des habitants, et puis d'essayer donc de moderniser un petit peu le cadre de vie et de le sécuriser. Donc un règlement de police assez complet, plus de 100 articles, est adopté par le Conseil de ville au début 18e, en 1717. Donc, qui entend régir de manière un peu plus précise, disons la vie des habitants, donc en interdisant par exemple de jeter par les fenêtres les urines, les eaux usées, les boues, en réglementant l'élevage des animaux, et puis en renforçant un petit peu la sécurité publique. Donc ça, c'est un premier pas. Et puis un certain nombre d'aménagements urbains sont entrepris, en particulier donc la création des promenades qui existent toujours aujourd'hui hein, et qui ont à peu près la même configuration qu'au XVIIIe siècle, donc avec des allées qui vont depuis la Porte Mars jusqu'à la Velle, la patte d'oie, le canal actuel, hein, avec donc une forme de patte d'oie sur la fin qu'on connaît toujours aujourd'hui. Donc ça, c'est l'aménagement de ces promenades démarre en 1731 et dure une dizaine d'années. Les promenades sont aménagées à l'extérieur du rempart, hein, donc on est en dehors de l'enceinte. Une nouvelle porte est créée pour permettre d'y accéder facilement depuis la place de la Couture, qui est l'ancien nom de la place d'Erlon, mais qui avait déjà cette configuration-là. Donc une porte grillagée, porte neuve est créée, par laquelle entreront les rois au moment des sacres Louis XV et Louis XVI, donc qui est une porte un peu monumentale et prestigieuse. Et donc ces promenades ont pour but de permettre aux habitants rémois de pouvoir accéder à un espace avec un air sain, de profiter de la nature aux portes de la ville et donc d'améliorer la qualité de vie. C'était déjà à l'époque un lieu de déambulation, un lieu de loisirs, de sociabilité, où les gens se rencontraient et pouvaient se détendre. Donc ce qui est remarquable, c'est que ces promenades finalement ont marqué une étape importante de l'aménagement urbain et sont toujours existantes deux siècles après. Elles ont même été réhabilitées récemment et sont redevenues vraiment un des poumons verts de la ville de Reims. Une autre évolution très importante qui a transformé vraiment la vie des habitants, c'est la création de fontaines publiques pour amener l'eau courante au cœur de la ville. Puisqu'avant, dans les siècles précédents, et jusqu'au donc dans les années 1730-1740, pour pouvoir avoir de l'eau, il fallait soit aller dans des puits qui existaient parfois dans certaines cours, mais tout le monde n'y avait pas accès, ou bien aller à la rivière, à la Velle, où l'eau n'était pas forcément toujours très, très saine et très potable. Donc une des grandes créations de cette époque, c'est donc la création de fontaines publiques, alimentées depuis un château d'eau, créées à l'est de la ville, en amont, donc à partir d'un bras de la Velle, où l'eau était de meilleure qualité, donc avec la création d'un château d'eau, qui est dû au père Ferry, qui était à la fois un religieux et un scientifique, un mathématicien, donc qui a créé une machinerie et un château d'eau, qui est toujours visible aujourd'hui. C'est ça qui est remarquable aussi, c'est que cette tour Ferry, qui est rue de Tessy, est toujours visible dans sa configuration presque d'époque. Elle a été préservée, elle n'est plus en fonctionnement aujourd'hui, mais elle a été préservée. Donc il y avait un système de roues à aube qui pompait l'eau de la Velle, qui la faisait monter dans un réservoir donc au sommet de la tour, donc le principe du château d'eau, et ensuite donc l'eau redescendait par gravité, et avec la pression de la redescente, elle pouvait se répandre dans plusieurs kilomètres de canalisations en plomb qui ont été créées à cette époque-là et qui ont irrigué les principaux quartiers de la ville, en passant par l'équivalent aujourd'hui par la rue du Barbâtre, qui avait un autre nom mais qui était à peu près la même, et puis par l'axe Champs-y-Gambetta, par la voie des Sacres également. Et donc 18 fontaines ont été créées, fontaines publiques dans la ville, pour permettre aux habitants d'aller plus facilement s'approvisionner. Et la création de ces fontaines a été rendue possible grâce à la philanthropie d'un personnage important, qui est le chanoine Jean Godinot, dont la mémoire persiste encore aujourd'hui. Il y a une place Godinot à Reims, avec une fontaine, mais qui n'est pas de l'époque, qui date du 19e siècle, qui a été créée vers 1850, justement pour rendre hommage au chanoine Godinot et à sa philanthropie. Et puis, il y a également le centre régional de lutte contre le cancer, qui est l'Institut Gaudinot, puisque une autre de ces actions bienveillantes est la création d'un hôpital dédié aux malades du cancer, qui passe pour être le premier hôpital mondial spécialisé dans le traitement du cancer, donc qu'a financé donc le chanoine Gaudinot. Donc c'était un personnage très important, donc qui a été chanoine de Reims, donc qui a assisté l'évêque dans l'administration du diocèse. Il a été démis de ses fonctions pour déviance religieuse, et il s'est consacré ensuite à la culture de la vigne. En fait, il a fait fortune dans la culture de la vigne, donc c'était un des pionniers de l'élaboration du vin de Champagne. Et sa fortune, il l'a mise à disposition très largement de la ville de Reims et de ses habitants, puisqu'il a donné l'essentiel de sa fortune à la ville pour financer un certain nombre d'opérations. Donc les fontaines publiques, il en reste encore aujourd'hui deux visibles. L'une, la fontaine des Boucheries, qu'on peut apercevoir dans des dessins qui sont présentés dans l'exposition, qui se trouve aujourd'hui en haut du cours Langlais, qui a été déplacé plusieurs fois, notamment récemment pour créer la ligne de tramway, mais qui est toujours visible dans sa configuration de départ, hein, presque inchangée. Et puis la fontaine des Carmes, justement rue du Barbâtre, qui est un peu moins visible parce qu'elle est enserrée dans un bâtiment. Mais il reste quelques témoins de cette époque très importante. Donc ça, c'est une étape vraiment décisive dans l'assainissement de la ville et dans l'amélioration de l'hygiène publique, que la création de ces fontaines, qui ont une histoire tout à fait particulière. Et Reims était une ville pionnière dans ce domaine-là, puisque le père Ferry a ensuite créé d'autres châteaux d'eau dans d'autres villes françaises sur le modèle de ce château d'eau rémois. Une autre transformation très très importante et qui est encore toujours visible, qui marque le paysage rémois, c'est la création de la place royale. Alors, donc ça, c'est sous l'impulsion de l'évêque de Pouilly, à partir de 1750, que cette place est mise en chantier. Elle est due à un architecte important, architecte du roi, qui s'appelle Jean-Baptiste Legendre. Son aménagement a duré très longtemps, puisque en fait elle n'a été véritablement achevée qu'en 1910, avec la dernière partie de la place qui correspond à la Société Générale actuelle, voilà. Donc qui est elle beaucoup plus tardive. Mais donc cette place royale qui s'inscrit dans un mouvement aussi de création de place royale dans d'autres villes en France, hein, c'est contemporain de la place de la Concorde à Paris par exemple, ou de la place Stanislas à Nancy. Voilà, donc il y a un mouvement de création de place royale pour embellir les villes, aussi offrir des espaces ouverts, de prestige, d'apparat, mais aussi permettant le développement du commerce, hein, puisque ça permettait aussi d'accueillir des marchés sur cet espace urbain dégagé. Donc ça a contribué vraiment à l'embellissement de la ville et à son aménagement. Avant la place royale, il y avait un vieux quartier, le quartier du Grand Credo, donc où il y avait un certain nombre de maisons et de rues très étroites médiévales, donc qui ont été les maisons ont été expropriées, donc le quartier a été rasé pour créer la place royale. Et donc au centre de cette place trône une imposante statue de Louis XV, qui est très intéressante à la fois. Sur le plan esthétique, hein, c'est l'œuvre de Jean-Baptiste Pigalle, un grand sculpteur extrêmement réputé. Elle est très très symbolique, puisque on voit donc sur une colonne une grande statue de Louis XV, le roi bien-aimé, hein, c'était son surnom, donc roi bienveillant, protecteur, donc qui est en habit romain, en habit d'empereur romain, qui tend le bras pour protéger le peuple. Et au pied du roi Louis XV, deux statues, deux allégories représentent l'une le citoyen heureux. Donc on voit un personnage qui est assis et qui semble jouir de sa situation, avec à ses pieds une bourse avec des pièces et puis des diverses victuailles. Donc on montre ainsi qu'il est qu'il jouit d'une condition agréable. Puis de l'autre côté, donc une sculpture féminine qui symbolise le bon gouvernement. Donc cette sculpture, cette femme tient dans une main un gouvernail, donc pour symboliser le fait que le gouvernement tient le cap et va dans le bon sens. Et de l'autre côté, elle tient la crinière d'un lion. Le lion symbolise le peuple, et donc il se laisse guider de manière bienveillante et confiante par le bon gouvernement. Voilà. Donc c'est une sculpture qui a une dimension politique certaine, hein, qui est, vise à souligner un petit peu les qualités du roi et la bienveillance de son règne et de son gouvernement avisé. Donc l'inauguration de cette statue a donné lieu à des grandes fêtes pendant 4 jours, des festivités très très importantes, en présence de la reine Marie Leczinska, donc qui est venue spécialement à Reims pour l'inauguration de la statue. Et donc il y a eu de grandes cérémonies, un feu d'artifice tiré depuis la place d'Erlon, un grand bal donné sur les promenades, voilà, 4 jours de festivités, dont il nous reste des témoignages, à la fois des gravures assez spectaculaires qu'on peut voir dans l'exposition, qui reprennent un peu les grandes étapes, disons, de cette célébration, et puis divers écrits, divers textes qui ont été rédigés à cette occasion pour témoigner un petit peu de cette du faste, un petit peu de cette réalisation et des fêtes qu'ont connues la ville de Reims. Et donc la place royale est toujours un élément important du paysage et du patrimoine rémois, qui a permis de reconfigurer un peu le centre-ville, avec notamment la création de nouvelles artères, comme la rue Colbert actuelle, qui met en communication la place royale avec la place du Forum et puis l'hôtel de ville dans son prolongement.
Et on peut observer au sein de l'exposition des gravures, enfin...
Des gravures, tout à fait, oui, tout à fait.
De l'époque...
Oui, absolument. Alors toutes ces évolutions, évidemment, sont évoquées dans l'exposition à travers beaucoup de documents graphiques, des dessins originaux, des gravures, des plans. En particulier, la pièce centrale de l'exposition, c'est le plan dit Legendre, donc qui a été commandé à la demande de Jean-Baptiste Legendre, architecte de la Place Royale, et du Conseil de Ville, pour un petit peu résumer les différentes transformations de la ville. Donc c'est un document très spectaculaire qui fait 1,50 m sur 1,20 m à peu près, donc qui présente un plan très détaillé de la ville à l'époque, où on voit justement tous les projets en cours. Et puis autour de ce plan, il y a une quinzaine de médaillons qui représentent les différents monuments, les principaux monuments de la ville. Bien sûr, la cathédrale, Saint-Rémy, l'hôtel de ville, mais aussi des monuments disparus, comme le château des archevêques, donc qui était à la place du Boulingrin actuel et qui a été détruit sur ordre d'Henri IV. L'abbaye Saint-Nicaise aussi, qui a été détruite un peu après la Révolution, et puis les aménagements en cours à l'époque, donc la création de la place royale, et puis la création des fontaines notamment. Donc ce plan très très détaillé, spectaculaire, est un peu le résumé de toutes les évolutions qui sont évoquées dans l'exposition à travers plus d'une centaine, 120 documents graphiques ou de livres imprimés, des objets aussi prêtés par les musées de Reims. Qui permettent aussi de valoriser nos collections. On a des très riches collections, notamment iconographiques, sur Reims et sur la Champagne.
Donc il y a des documents qui sont conservés ici et qui sont conservés, j'imagine, aussi aux archives départementales.
Alors 90% des documents qui sont présentés viennent des collections de la bibliothèque, et puis on travaille assez généralement en partenariat avec les autres institutions patrimoniales rémoises. Donc les archives municipales ont prêté un certain nombre de documents, notamment des plans d'arpentage évoquant la création des promenades. Et puis le musée des Beaux-Arts et le musée Le Vergeur nous ont prêté pour l'exposition divers objets, donc une peinture du 19e qui représente la tour Ferry, un buste du chanoine Godinot, des maquettes de la statue de Louis XV sur la place royale, un mascaron en plâtre, donc un moulage d'un des mascarons, donc les bouches qui représentent des animaux et par lequel s'écoule l'eau sur les fontaines, donc qui est un moulage d'un des mascarons de la fontaine des Boucheries, qui permet de se rendre compte un peu de l'échelle des monuments. La dernière partie de l'exposition évoque le développement de la médecine, les progrès de la médecine à cette époque-là, le développement de l'éducation et aussi la vie intellectuelle à Reims à l'époque. Donc développement de la médecine, notamment, je l'ai évoqué tout à l'heure, avec la création d'un hôpital dédié aux malades du cancer, financé par le chanoine Godinot, donc le lointain ancêtre de l'Institut Godinot actuel, donc qui consistait en donc des chambres spécialisées au sein d'un hôpital existant qui était l'hôpital Saint-Marcou, qui était situé entre la cathédrale et Saint-Rémy, au niveau de la rue Chanzy actuelle à peu près. Également à cette époque-là ont été créées de nombreuses écoles publiques, certaines financées du reste par le chanoine Godinot. L'évêque de Pouilly lui-même a mis en place donc une école de dessin et de mathématiques qui était installée à l'hôtel de ville, qui visait surtout à former des dessinateurs qu'on dirait industriels aujourd'hui, disons, et des techniciens pour faciliter le développement de l'industrie et de l'artisanat. Donc il y avait un but utilitaire. Mais cette école de dessin a joué un rôle important puisque elle est la collection qui avait été rassemblée par le premier directeur de cette école, Ferrand de Montelon, puisque l'enseignement du dessin se faisait beaucoup par la copie en fait, hein, des œuvres des maîtres anciens, est à l'origine du premier fonds du Musée des Beaux-Arts de Reims. Voilà, en particulier les dessins de Cranach, qui sont un des fleurons du musée, viennent de la collection de Ferrand de Montelon et donc de cette école de dessin créée à cette époque-là, donc qui a joué un rôle intéressant. Et puis, donc l'évêque de Pouilly était lui-même, c'était un intellectuel, en même temps qu'un homme d'action, puisqu'il a eu des responsabilités au sein de la ville. Il a été l'équivalent de maire de Reims pendant une brève période, puisqu'il est mort brutalement, mais il a eu une influence assez importante sur ses contemporains. Il est l'auteur d'un ouvrage de philosophie qui s'appelle « Le traité des sentiments agréables », Théorie des sentiments agréables, pardon, qui a connu un certain succès au XVIIIe siècle, qui a été réédité plusieurs fois, et qui est cité dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, donc qui bénéficiait d'une certaine reconnaissance. L'évêque de Pouilly est un intellectuel important, qui était ami de Voltaire, et on sait que Voltaire est venu plusieurs fois à Reims lui rendre visite. À plusieurs reprises, ils correspondaient également ensemble. L'évêque de Pouilly était également en lien avec Madame du Châtelet, donc qui était une femme vraiment une pionnière, disons, une scientifique de haut niveau, donc un personnage très 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 important de cette époque-là. Et le dernier personnage qui est évoqué dans l'exposition, c'est Madame le Prince de Beaumont, dont le nom est peut-être moins connu aujourd'hui, mais qui est l'auteur notamment de La Belle et la Bête, donc qui a été adapté au cinéma, et puis de ce qui est considéré comme les premiers ouvrages pour la jeunesse, donc Le Magasin des Enfants, une des œuvres pionnières de la littérature pour enfants. Voilà. Et Madame le Prince de Beaumont a enseigné plusieurs années à Reims au Collège des Bons Enfants, et donc a des liens très forts avec la ville de Reims. Voilà un petit peu les quelques éléments pour évoquer la riche vie intellectuelle de cette époque-là et la diffusion de l'esprit des Lumières à Reims.
Donc il y a vraiment beaucoup de choses à voir, aussi bien pour les grands que pour les plus jeunes.
Oui, bien sûr, on essaye à chaque fois, dans toutes nos expositions, d'adapter un peu le discours pour permettre à un public non spécialiste de pouvoir accéder à l'exposition, et également on a des actions particulières en direction des scolaires, évidemment, donc on leur propose des visites guidées, et puis pour les enfants qui viennent avec leurs parents, on a des livrets pédagogiques qui permettent aussi de découvrir l'exposition sur un mode un peu plus ludique, voilà, adapté au jeune public.
Parfait, eh bien merci beaucoup de nous avoir accueillis ici.
Merci à vous.
Une superbe exposition à découvrir donc à la Bibliothèque Carnegie, l'exposition Le Bonheur Public, Vivre à Reims au siècle des Lumières. Attention, c'est jusqu'au 1er août. Comme l'a très bien expliqué notre intervenant Monsieur Gallo, il est possible de venir accompagné de vos enfants qui pourront trouver à l'entrée de l'exposition un chouette feuillet qu'ils pourront remplir avec des questions, avec des jeux, donc n'hésitez plus à vous y rendre, et je vous dis à bientôt.
Et voilà, à deux pas de